si on regarde les outils de la fabrication du son, et ça c'est important, de comparer cette écoute, c'est-à-dire cette modalité d'écoute, et ce que va nous donner la prise de son. Bien, lorsqu'un micro prend le son, il ne va pas prendre les éléments comme nous les écoutons. C'est-à-dire que la prise de son ne représente pas du tout notre écoute. Comment le microphone prend le son? Eh bien, il prend le son en fonction des pressions qui existent. C'est-à-dire que les événements seront entendus. Alors que nous, face à une ambiance, par exemple, chargée d'un café, ou même pas très chargée, nous n'écoutons pas tout. Nous surveillons des éléments qui émergent, point. Mais on n'a aucun intérêt à écouter tout. On se ruinerait de fatigue. Le soir, on serait épuisé. Donc, nous n'arrêtons pas de sélectionner, de choisir. Nous faisons un parcours désirant. Et même cette écoute de protection est liée aussi au parcours désirant. Le microphone lui prend tout. C'est-à-dire quoi, tout? Eh bien, tout ce qui est inutile et en continu aussi. C'est-à-dire que la prise de son du réel, et ça, je parle de ça pour les documentaristes, hein, la prise de son du réel offre beaucoup trop d'informations par rapport à ce que l'on désirerait avoir. Alors, l'image, vous allez me dire, fait la même chose. Sauf que l'image permet d'avoir un bord cadre, c'est-à-dire de décider ce que l'on ne prend pas. Et d'autre part, l'objectif permet, un, de faire le point, c'est-à-dire de décider dans la profondeur de champ un endroit qui va être net, donc de désigner une partie de ce qui est visible. Et d'autre part, en fonction de la focale, de décider de la profondeur de champ. Je ne dis pas pour autant que le flou n'est pas scruté par notre œil. Il est aussi scruté, mais d'une autre façon. Le son qui est rapporté à cette image, qui est décidé, désigné, et qui, lui, est pris dans le même espace, ne représente pas l'espace de la même façon. Ce son représente l'espace d'une façon beaucoup plus large, beaucoup plus grande, beaucoup plus pleine, beaucoup plus chargée, extrêmement densifiée, trop dense. Et c'est par la vision que l'on va trier dans cet élément sonore ce que l'on peut. Parce que malheureusement, quand un enregistrement est fait, notre cerveau n'a plus la faculté de tri qu'il a dans le réel. Et ça, c'est le gros problème de la prise de son. Parce qu'on pourrait dire, ben c'est très bien, on prend le son, il y a trop de choses, mais comme dans le réel, on va trier. Eh bien non. Une fois que c'est enregistré, on ne peut pas trier. Alors, on a trouvé des solutions bâtardes, enfin, approximatives, qui est la stéréophonie, qui sont extrêmement contraignantes dans les conditions de l'écoute, puisque avoir la sensation de la stéréophonie et pouvoir avoir un petit pouvoir séparateur entre les différents éléments, ça suppose se trouver à une certaine distance équilatérale des enceintes, etc. Donc, si vous avez des éléments qui sont donnés et qui sont de nature différente, si on prend en musique, par exemple, l'enregistrement d'un quatuor à cordes, vous distinguerez facilement le violoncelle de l'alto ou du violon. Ça devient déjà plus difficile si vous voulez écouter que le violoncelle. Mais entre deux violons, par exemple, le premier et le deuxième violon, vous n'arriverez pas à savoir qui joue. Alors qu'en réel, face à l'orchestre, vous pourrez, s'il n'est pas amplifié par les microphones, vous aurez la faculté d'écouter qu'un instrumentiste. Et même, je dirais, dans certaines conditions, si vous êtes aveugle, vous pourrez séparer les deux éléments. On arrive à localiser extrêmement précisément. La variable d'angle de précision sur l'écoute, c'est entre 2, 3 degrés et 10 degrés, selon la situation et où se trouve dans l'espace la source. Une fois que c'est enregistré, ce pouvoir séparateur ne peut plus être fait de la même façon. Pourquoi? Eh bien parce que ça arrive par deux pistons, alors que dans le réel, ça arrive avec des retards différents qui sont liés à toutes les réflexions dans l'espace, et puis d'autre part, aux petits mouvements de la tête, à tous les mouvements que fait notre corps pour chercher des choses. Inconsciemment, on bouge toujours, et ça nous refait un scan de l'ensemble de la scène sonore qui la précise sans cesse. Alors ça, c'est des données importantes, c'est-à-dire que le mode de représentation qui est donné par la prise de son n'a rien à voir avec le mode de représentation qui est donné par le cadre, qui est donné par l'image. C'est-à-dire que derrière le micro, par exemple, j'entends ce qui se passe. Même si j'ai un microphone directionnel, hein, que je dirige vers vous, si je parle derrière le micro, ça passera quand même. Ça sera atténué, mais ça s'entendra. Et ça s'entendra, bien sûr, parce que la voix, elle ne va pas seulement vers le micro directement par l'arrière, mais elle va aussi rebondir sur toutes les surfaces des murs et revenir par l'avant du micro. Donc il n'y a pas d'isolation, il y a un point à l'infini dans la prise de son, il n'y a pas de cadrage. Alors, et bien sûr, c'est facile de dire, ça va être le son de l'image, et puis, bon, tout ce que l'on entendra, que l'on ne verra pas dans l'image, ça va être du hors-champ. Bon, c'est une façon d'interpréter, c'est-à-dire, on va valoriser l'image, et on va dire que le son est que le son de l'image, et que finalement, tout ce que je ne vois pas dans l'image, ça n'aurait pas de valeur comme élément dominant, etc., parce que ce n'est pas OK. Alors ça, c'est une donnée importante, ça serait de se dire, finalement, voyons comment le sonore fonctionne et essayons de repenser la possibilité de donner à entendre. Alors, comment on donne à entendre? Eh bien, évidemment, on a trouvé une solution au cinéma, c'est de percher, c'est-à-dire de rapprocher le micro de l'endroit où se situe le cadre et donc de préciser la zone qui est montré à l'image. Alors, on fait mieux que ça depuis un certain temps, on a inventé les micro-cravates, c'est-à-dire que ces microphones sont ambulatoires, on les met sur des personnes, puisque souvent on veut enregistrer les voix, et les gens se promènent avec un microphone autour du cou. Mais ça définit un plan qui est de cette nature. Alors, vous comprenez bien que quand on est sur un plan général et qu'il y a 20 personnes, on ne peut pas mettre 20 micro-cravates à tout le monde, et du coup, les personnes qui auront les micro-cravates seront définies beaucoup plus que ceux qui n'en auraient pas. Donc il y a une limite de la définition des sources par le nombre de micros. Et puis d'autre part, est-ce qu'une somme de gros plans est équivalente à un plan général? Hein, si vous mettez 20 photomatons, est-ce que ça fait une photo de groupe? Non, c'est autre chose. Donc on va effectivement, avec le son, tricher, si vous voulez, les éléments sonores en fonction de l'image, et cette tricherie va passer. Hein, notre cerveau, puisqu'elle voit des choses, va interpréter ce qu'elle entend en fonction de ce qu'elle voit. Donc on met, si vous voulez, l'écoute, notre être met l'écoute au relatif de ce qu'il voit. Les données qui arrivent au cerveau vont plus vite d'ailleurs quand elles viennent de l'œil que de l'oreille, et elles sont plus nombreuses. Donc ça, c'est une chose importante. On va toujours rattacher, raccorder, à partir du fait que c'est des éléments synchrones, le sonore à la vision. Alors, je dis à partir du moment où c'est des éléments synchrones. Et ça, c'est un des éléments clés de la question. La question du synchronisme est bien évidemment fondamentale. Le synchronisme au cinéma, c'est la loi. Puisque ce son est au même endroit et dans le même mouvement que ce que je vois, il y a là de la vérité. Au point où on peut bruiter avec des sons qui ne sont pas les bons des événements et y croire. Et donc on peut tirer le sens de la nature, on pourrait dire plastique, de ces événements en changeant la nature du son. Puisqu'ils sont synchrones, c'est bien le son de cet objet. Eh bien, je peux faire un son mou sur un objet qui présenterait normalement un caractère de dureté. La nature plastique de cet objet, malgré sa visibilité, est transformée. Évidemment, le dessin animé emploie ça de manière très importante et très fréquente depuis très longtemps, mais des cinéastes, dans l'histoire du cinéma, ont travaillé là-dessus. Je pense à Alain Robbe-Grillet, qui, dans « Glissement progressif du plaisir », par exemple, a employé dans un escalier un personnage qui ferme une porte, et on voit une porte en bois, on s'imagine qu'elle va sonner comme une porte en bois, il met une porte en fer, et du coup, il y a un sens supplémentaire qui arrive. Si cette porte est maquillée en bois et qu'elle est en fait en fer, c'est qu'on cache quelque chose derrière. Pour quelle raison elle est en fer? Évidemment, on connaît le cinéma sulfureux de Robbe-Grillet, on sait que derrière, il y a des scènes sadomaso qui vont se passer. Et donc, il y a là, à cet endroit, quelque chose qui donne du sens en plus, qui ramène un élément supplémentaire et qui engage, si vous voulez, des enjeux, des nouveaux enjeux dans le récit. Donc cet écart qu'il y a entre comment le son représente ce que je vois est fondamental dans la construction de l'imaginaire. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est très, très important. Au théâtre, on a compris ça depuis longtemps, c'est-à-dire que pour nous, fabriquer le sonore de Samuel Beckett ou fabriquer le sonore de Shakespeare, c'est pas la même chose. Parce que le monde imaginaire de Samuel Beckett n'est pas le même que celui de Shakespeare. Et lorsque nous fabriquons des sons pour Beckett, nous ne pouvons pas fabriquer les mêmes sons que nous ferions pour Shakespeare. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce que à l'endroit de Beckett, il y a une évacuation, par exemple, du monde. Il n'y a pas d'ambiance. Eh bien, tous les sons chez Beckett doivent être entendus dans du vide, dans un espace évacué. C'est quoi entendre des sons dans un espace évacué? C'est entendre des sons qui ne rendent pas compte de l'espace.